Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous avons commencé à nous intéresser dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe sur le Dieu tout-puissant, cette toute-puissance de Dieu. Et nous disions que trois caractéristiques de cette toute-puissance sont précisées par le catéchisme, à savoir qu'elle est universelle, aimante et mystérieuse. Peut-être serait-il bien d'aller un peu plus avant sur chacun de ces trois caractères, et notamment aujourd'hui universelle, toute puissance de Dieu est universelle. Il est dans l'article 269, il est indiqué, pour parler de cette toute puissance de Dieu, je retiens les mots suivants. Tout est disponible pour Dieu. Et puis il y a ce mot, il est le maître de l'histoire. En lisant cela, le maître de l'histoire, ça m'a fait penser à ce très bon roman. J'ai beaucoup apprécié ce roman du révérend anglican Robert Hugh Benson. Il a écrit ça il y a plus d'un siècle, une sorte de roman d'anticipation. Et aujourd'hui, on a le sentiment que, donc dans son roman, c'est cette force, cette puissance de Dieu, cette place du christianisme qui se trouve bousculée par des forces contraires. Et paradoxalement, ce n'est pas à coup de grands renforts de force, c'est la simplification, retourner à l'essentiel, à l'essence même de Dieu. C'est ça qui, dans la fin du livre, nous fait découvrir que le maître de la terre n'est pas celui qui veut s'arroger l'homme, puisqu'il s'agit d'une sorte d'antéchrist, d'un opposant à la foi, mais Dieu, dans sa simplicité, mais dans sa toute-puissance universelle, lui est véritablement le maître de la terre et le maître de l'histoire, dit le catéchisme.
Oui, Jean-Paul II aura cette belle expression à Manille lors de son intervention, première sortie importante d'un pape après le début de son pontificat, où il dira « Le Christ est le centre de l'histoire et la clé même de l'histoire ». C'est vrai que nous avons besoin sans cesse de revenir à ces fondamentaux parce que même lorsqu'il y a une force adverse qui semble tout à coup être comme une sorte de contre-produit par rapport à ce que nous espérons au sens basique du terme, et en fait Dieu dirige aussi les cœurs. On voit par exemple dans la sortie du peuple juif au moment de l'Exode, que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Ça paraît paradoxal. Normalement, il devrait convertir le cœur de Pharaon. Et voilà qu'il endurcit le cœur de Pharaon. Donc pour nous, c'est très surprenant, cette expression. Et pourtant, à travers ces événements qui sont durs pour Moïse, pour le peuple juif, ces 10 plaies qu'ils doivent assumer, etc., finalement, petit à petit, le peuple d'Israël prend goût à la liberté, retrouve sa liberté, retrouve son goût de combattre et finalement sa force pour sortir d'Égypte et aller au désert. Sinon, sans doute, s'il n'y avait pas eu les 10 plaies, serait-il sorti ? Ne serait-il pas resté esclave de leurs conditions antérieures ? Et Dieu, donc, durcit certains aspects pour aider à ce qu'il y ait comme une opposition par rapport à des libertés, pas encore assez fermes, jusqu'au moment où la fermeté de ces libertés peuvent s'envoler, en quelque sorte, comme un oiseau en cage. Tout d'un coup, on ouvre la cage parce qu'il est prêt à partir, comme la colombe dans son nid, ou le pigeon voyageur qui est envoyé à un bon moment et qui est nourri de manière suffisante pour qu'il puisse faire ce long voyage. Dieu nourrit son peuple avant de l'envoyer dans l'épreuve.
Oui, je trouve ça assez important. Dieu qui durcit les cœurs pour que l'homme retrouve sa stature, sa colonne vertébrale, que oui. Finalement la toute-puissance de Dieu Et cette toute-puissance de Dieu universelle n'est pas là pour écraser l'homme, pour empêcher ses réactions, mais au contraire, pour le faire être vraiment ce qu'il est, un homme qui a une stature, qui est animé de l'intérieur. Et je pense que quand on se méprend sur l'expression toute-puissance de Dieu, c'est aussi qu'on a l'impression que ça empêche l'homme, cela soumettrait l'homme, alors que c'est sa chance ou la grâce qui lui est donnée de retrouver la force du combat, le combat intérieur, la force de la vie, la force de la liberté, comme tu l'as dit. Je trouve ça assez extrêmement important de nous souvenir de ça.
Oui, et les expressions, donc le fort, le vaillant, le puissant de Jacob, le seigneur des armées que nous évoquions la dernière fois, tout cela oui. Le dit, c'est dans le projet du dessein d'amour bienveillant de Dieu, tout est mis dans ces expressions au service de ce que Dieu veut finalement, et qui est la croissance dans le bien. Et c'est pour cela que le deuxième attribut, après avoir parlé de l'universalité de cette toute-puissance, l'amour qui passe à travers cette toute-puissance, Dieu est Père. Et ça, c'est la grande découverte déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, où on appelle Dieu Père, mais bien plus lorsque Jésus nous révèle que Dieu est son Père, parce qu'il est le monogène du Père, le Fils bien-aimé du Père, et qu'en même temps, il veut nous faire participer à cette filiation. Nous devenons fils adoptif en lui, fils dans le Fils. Et ça, cette découverte de l'amour, de la paternité de Dieu, change toute chose, parce que comme un père est bien obligé, quand il éduque son enfant, de ne pas tout lui donner tout de suite, de l'aider, parfois de le corriger, de le reprendre, d'être comme un tremplin pour que l'enfant, petit à petit, acquiert sa liberté, acquiert ses facultés, acquiert ses possibilités. Et le père est comme celui qui envoie vers le monde extérieur. Il a un rôle paternel très exigeant, mais en même temps qui va structurer l'enfant au point qu'un jour, il pourra quitter son père et sa mère et fonder un autre foyer.
Finalement, le vis-à-vis, j'ai envie de dire les choses comme ça, le vis-à-vis de la puissance de Dieu universelle, c'est la foi virile de l'homme, virile au sens animé de force, celle qui est animée de la vertu de force. Ce n'est pas la question de masculinité, hein, dont il est question. Mais, et parfois, nous pouvons avoir une foi qui s'affaisse, une foi qui ne s'ouvre pas, une foi qui se rétrécit. La toute-puissance de Dieu est vraiment là pour nous recentrer, pour nous réaffermir.
Exactement, et la belle expression de la deuxième épître aux Corinthiens le dit très bien. « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » 2 Corinthiens 6, 18. Et c'est vrai que cette toute-puissance se manifeste d'une manière non seulement dans la création, le verbe para, bara le dira quand nous étudierons la création, c'est unique, il n'y a que Dieu qui peut créer, mais il y a aussi un autre verbe, il n'y a que Dieu qui peut vraiment pardonner. Et ça, cette paternité qui est ainsi signifié dans le mot tout-puissant, nous rappelle que Dieu peut nous pardonner. Et c'est pour cela que dans le credo, c'est important de l'affirmer, puisque nous nous appuyons sur cette toute-puissance de Dieu qui est capable de miséricorde, qui est capable donc de nous pardonner. Si Dieu n'était pas tout-puissant, pourrait-il nous pardonner? Probablement pas.
C'est ce que nous verrons, j'imagine, aussi dans la toute-puissance aimante, mais sur cette toute puissance universelle, pour creuser un petit peu la chose, il y a toujours cette peur que l'homme n'est plus son espace à lui. Comment l'homme peut-il se situer face à une toute puissance universelle? Je pense qu'on l'a dit hein, d'une façon ou d'une autre, qu'elle était là au contraire pour redonner à l'homme sa place, mais je pense que face à cette idée de toute puissance universelle, il y a cette impression que Dieu durcit les cœurs pour qu'on réagisse, l'homme n'aurait-il pas la possibilité de réagir par lui-même? Est-ce que finalement il est sans consistance?
Oui, c'est là où il nous faut faire un peu de philosophie et distinguer les causes. Il y a la cause première, qui est Dieu qui dirige toute chose, et en même temps, Dieu, dans cette toute-puissance qui est tellement infinie, permet qu'il existe des causes secondes libres, et cela ne retire en rien à sa toute-puissance, tout en laissant vraiment à chacun son autonomie. Et les créatures sont autonomes par rapport à Dieu. Évidemment, le risque, en faisant l'expérience du goût de l'autonomie, c'est qu'elle soit tentée par l'indépendance. Et certains disaient, ben effectivement, à partir du moment où je veux ce que je veux, qu'est-ce que Dieu vient faire dans cette affaire-là, puisque c'est moi qui veux. Comme si on était entièrement indépendant. Or non, Dieu accompagne par sa toute-puissance ce que nous sommes. Il nous laisse la liberté, il ne la bannit jamais, mais il produit en nous à la fois le vouloir et l'opération. Et un vouloir et une opération qui sont libres, c'est ça qui est extraordinaire. Dieu accompagne toute chose par le fait qu'il est cette cause première, transcendante, et qu'en même temps, il nous laisse vraiment autonomes, libres dans nos mouvements. Dieu ne s'interdit en quelque sorte de forcer nos volontés. Dieu peut tout, mais dans sa sagesse, il a décidé une bonne fois pour toutes d'interdire, de s'interdire à lui-même la possibilité de forcer nos volontés. Ce qui est très rassurant, je dirais. À la fois être sûr d'être dans la main du Père et en même temps libre. C'est quand même un don extraordinaire que la vie humaine qui nous est accordée.
Et ça rejoint cette expression que j'avais citée quand nous avons commencé à regarder cette toute-puissance de Dieu, c'est le « omnitenens », Dieu qui tient
qui
tout.
Qui tient tout, exactement. Et dans les icônes orientales, on voit souvent cette main qui descend du haut des icônes et qui tient toute chose, sur lequel rayonne en quelque sorte toute chose. Et c'est très rassurant de voir cette main qui descend du haut de l'icône en disant ben, « Dieu tient tout ». On peut s'appuyer dessus, il est un père dans lequel on peut se reposer.